leur permettre d'avoir un usage autonome comme tout autre citoyen de nos bibliothèques. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Hélène Kundzia, à ma gauche, au pupitre d'orateur, qui est donc bibliothécaire responsable du pôle Lire Autrement à la bibliothèque Marguerite Duras de Paris, et qui va nous parler du téléchargement d'ouvrages numériques à partir d'iBooks et nous faire une démonstration sur iPad d'applications diverses utilisables par les déficients visuels. Ensuite, Simon Auriez, qui donc est responsable de l'association Signes de Sens à Lille et qui nous présentera l'application Muséo notamment, qui a été mise en place au Quai Branly et bientôt aux Beaux-Arts de Lille. qui nous présentera aussi la démarche de Signes de Sens, qui est une démarche d'accessibilité universelle. Ensuite, Jean-Michel Ramos, qui est bibliothécaire à Toulouse et qui travaille donc au département L'œil et la lettre, nous présentera le dispositif d'accessibilité des collections mis en place à Toulouse via la RFID et un lecteur DAISY, le Milestone 312. Et enfin, Françoise Tarnowski, bibliothécaire à ma droite, bibliothécaire à Bibliopass, nous présentera une sélection de 15 applications intéressantes pour les personnes handicapées et qui pourraient être sélectionnées dans les bibliothèques. Donc, je laisse tout de suite la parole à Hélène. C'est à toi pour cette démonstration de téléchargement numérique à partir d'iBooks.
Bonjour. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas assez ou par la suite si vous n'entendrez pas assez l'iPad, puisqu'on va un peu jouer sur le niveau de son de moi et celui de l'iPad aussi. Donc moi je travaille effectivement à Marguerite Duras à Paris, une bibliothèque qui a un pôle d'accueil des déficients visuels. Le constat qu'on peut faire, c'est que dans nos collections de livres pour adultes, en ce moment, on est une grosse bibliothèque, donc pas plus grosse que d'autres qui sont présentes ici, 70 000 ouvrages pour adultes, mais seulement 1500 livres audio, 1100 livres en gros caractères, donc on peut bien voir que pour un lecteur aveugle ou malvoyant, l'offre est très restreinte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des collections complémentaires auprès de certains partenaires, notamment auprès des bibliothèques spécialisées qui nous fournissent des livres DAISY. Mais dans un avenir qui se rapproche de plus en plus, lorsqu'on pourra en bibliothèque prêter des livres numériques, on va vraiment pouvoir observer une convergence des usages entre les usagers déficients visuels et ce que peuvent faire les valides, on va dire, pour aller vite. Donc aujourd'hui, je vais faire une démonstration basée sur l'iPad, puisque c'est la tablette la plus simplement accessible. L'iPad que je vais utiliser, c'est un iPad standard. Ce qu'on peut faire là, on pourrait le faire sur n'importe quel appareil de la gamme Apple. Il n'y a rien à installer en plus, donc c'est beaucoup plus simple qu'avec un ordinateur. Il suffit d'aller déclencher les options d'accessibilité.
14h08, SEM déverrouillé. Horloge.
Je vais vous montrer les quelques options d'accessibilité qui se présentent pour les déficients visuels.
Réglage. Luminosité et fond d'écran. Cadre photo.
Donc vous voyez que la gestuelle est différente de celle que vous pourriez avoir les uns et les autres avec un iPad. Pour pouvoir à la fois explorer l'écran, de façon tactile, et déclencher des actions, je vais toucher l'écran à un endroit
VPN,
pour
connecter,
savoir
bouton.
Quel est l'élément que je touche, mais je peux aussi faire des balayages avec mon doigt de la gauche vers la
synchronisation
droite
Wi-Fi, iTunes, bouton.
Pour savoir quel est l'élément suivant et dans l'autre
VPN,
sens. Donc je n'ai pas forcément
verrouillage par code. Non, bouton.
Je n'ai pas forcément besoin de connaître précisément la position de chaque élément sur l'écran. J'ai différentes possibilités de balayage qui me sont offertes. Et de même qu'en général, avec une tablette de façon standard, on tape simplement sur un élément pour l'activer. Là, on va double taper, puisque le simple tap nous permet juste de savoir sur quel élément on est positionné.
Verrouiller la rotation.
Alors.
Vous pouvez verrouiller, geste, utilise, plus 1, plus balai, plus fer, dater, clavier, international, accessibilité.
Accessibilité.
Réglage, vision, en tête.
Dans les options de vision,
grande police, inverser les couleurs,
on a la possibilité d'inverser
activer,
le fond de l'écran et les caractères, ce qui aide beaucoup de malvoyants.
Désactivé.
On va pouvoir changer la taille des polices, de la police. Touch. Ça, en général, vous imaginez assez bien ce que c'est.
Régler la balance du volume audio entre 5 auditions.
Descendu un peu trop bas.
Inverser les couleurs. Grande police. Zoom. Désactivé.
Des fonctions de zoom qui, là aussi, vont engendrer une gestuelle particulière. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui s'appelle VoiceOver. Donc, lorsqu'on active VoiceOver, l'iPad parle et on change cette gestuelle. Qui est celle-là. Alors, on va du coup maintenant réglage, s'intéresser...
Page 2 sur page 3 sur page 4 sur 10, page 5 livre. Sur 10, iBooks. Toucher deux fois l'écran rapide.
Donc, des petits gestes aussi, pardon, pour le micro, des petits gestes aussi qui permettent très rapidement, deux doigts, je touche une fois l'écran, de faire taire la synthèse pour que ce soit moi qui puisse parler. Donc, je...
iBooks,
c'est l'application touché qui est dans le coin rapidement. En haut à gauche de ma page. Donc je double tape.
iBooks, Store, bouton.
Et j'ouvre cette application. Là aussi, iBooks, c'est une application complètement standard. Si vous-même vous utilisez un iPhone, un iPad, vous utilisez sans doute iBooks pour lire des livres. On arrive directement dans
intersection,
la liste
la tulipe noire.
Des livres qui sont déjà téléchargés dans cet iPad. Je pense que, contrairement à ce qu'a annoncé Marie-Noël, je ne vais pas refaire la démonstration du téléchargement, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr du Wi-Fi et on n'est pas sûr de pouvoir arriver au bout d'un téléchargement. Mais on va se contenter peut-être des livres qui sont déjà présents. On va commencer peut-être par une fiction.
L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono, roman et littérature.
Donc, la synthèse m'a dit le titre du livre, sa catégorie. Apparemment, ce livre, je l'ai déjà lu. On va voir qu'on peut repérer ce qu'on n'a pas encore ouvert.
La tulipe téléchargée de nouveau, Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas père, roman et littérature.
Par exemple, Les Trois Mousquetaires, il m'a dit nouveau. Donc je sais que ce livre, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, essayons celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert.
Bibliothèque, bouton.
Quand je rentre dans un livre, donc mon écran, je vais trouver la première icône bibliothèque qui me permettrait de revenir à l'écran précédent.
Table des matières, bouton.
La table des matières.
Les Trois Mousquetaires, apparence, rechercher.
Apparence, je bouton. Pourrais jouer sur la police.
Changer l'apparence.
Le thème, etc.
Rechercher, ajouter un signet, bouton. 10 textes préparés by Ebo libres et gratuits et 10 available at acheter.
Et puis on a la petite fenêtre avec le cœur du texte. Alors effectivement ici on a un petit avertissement en anglais qui n'est pas proprement le texte et la voix de synthèse là est restée sur le français. Je ne lui ai pas demandé de détecter automatiquement les langues mais il aurait pu le faire. Il aurait pu enchaîner en faisant une belle prononciation à l'anglaise.
Sélecteur de page, page 4, ajustable.
J'ai un sélecteur.
Touchez deux fois et maintenez votre doigt.
Donc vous voyez qu'à chaque fois j'ai des conseils contextuels. Là on me dit je suis sur un sélecteur d'éléments, donc je vais pouvoir avec un balayage cette fois-ci vertical choisir la page très facilement.
Page 3, page 2, page 3, page 4, page 5.
Et
revenir
puis,
à la P, 4, lien.
J'ai toujours la possibilité de revenir à la position de lecture précédente.
Numéro de page. 5 sur 4870.
Et que je puisse me situer dans le livre, je sais. Alors, c'est des petites pages dimensionnées iPad, etc.
Revenir à la PC, page recherche apparence, les trois mousses, table des matières.
Alors, on
bouton.
Va directement essayer d'aller dans le texte pour avoir du
retour.
Français.
Bouton, les trois accès, signet, note, introduction, chapitre premier, les trois présents de M. Au compte de l'affaire, de son plaisir.
Alors, directement, je me suis retrouvé positionné dans la fenêtre de lecture. À partir de là, j'ai deux possibilités. Soit on va écouter juste une page.
Ajouter un signe au compte de l'affaire, de son plaisir ou de son ennui. Cela posé, passons à notre histoire. Chapitre 1er, les trois présents de M. D'Artagnan père.
Alors, on pourrait bien sûr régler la vitesse de lecture. Alors, là, il ne s'est pas positionné tout de suite début du chapitre. Ça doit être le phénomène page de gauche, page de droite. Donc, on a eu d'abord la fin du petit texte précédent. Donc là, je vais
sélecteur de page,
me repositionner
page 33,
sur
ajustable.
Le sélecteur de page.
Page 34,
j'augmente
chapitre
d'un numéro.
Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de La Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si la Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se...
Et là, il s'arrête à la fin de la page. Il faudrait que j'aille dans le sélecteur de page
sélecteur
à nouveau,
de page,
je
page
lui
35,
demande la page suivante, etc. Ce qui est quand même pas très pratique quand on lit une fiction et qu'on veut lire en continu. Donc on a une gestuelle qui va nous permettre de déclencher la lecture en défilement automatique. Et donc à partir de là, les pages vont s'enchaîner, pardon, avec un petit son qu'on peut éventuellement couper qui va nous signaler quand on change de page, mais on va y avoir une lecture beaucoup plus fluide. Donc je vais prendre deux doigts et je les fais glisser vers le bas.
À tête endossée, la cuirasse est, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se diriger vers l'hôtellerie du franc meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes.
Et donc là, il a changé de page, automatiquement, j'ai pas eu d'action à faire. Donc ça, c'est pour une fiction, et on a la possibilité de lire du coup assez rapidement, de lire assez confortablement, en tout cas, de façon continue, une fiction. On va essayer de prendre un ouvrage...
Bibliothèque.
Alors, ma bibliothèque.
Bibliothèque. Bouton. Store. Bouton. L'homme qui plantait des arbres. Intersection. Extrait. Histoire de France. Jules Michelet. Histoire.
Donc là, Histoire de France, un ouvrage documentaire où la table des matières va s'avérer indispensable.
Bibliothèque, table des matières. Retour, bouton.
Donc on va pouvoir
1200,
aller choisir 1903,
chapitre
hasard.
8, page 420.
Ça ne nous dit pas trop ce qu'il y a dans le chapitre, mais bon.
Croisade du midi, mais seulement autant qu'il fallait pour constater sa foi. Lui seul, en Europe, avait une position forte.
Et donc je peux me retrouver, donc là je vais avoir la fin du chapitre précédent et le chapitre suivant.
Sélecteur
avec
de revenir
juste
à la
en dessous,
221.
Ce qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité de revenir à la position de lecture précédente. Ce que je vais utiliser là.
Numéro de page, 221 sur sélecteur de page. Ré le duché d'Athènes, on parlait français aussi bien qu'à Paris, 61. Lien.
Et là, donc dans mon texte, j'ai eu un moment 61 liens. Ça veut dire qu'on m'a signalé une note. Donc l'intérêt, ça va être aussi de pouvoir aller consulter cette note. Cette note, elle est placée en lien. Donc, quand je veux changer la manière dont je me déplace sur l'iPad, je vais utiliser ce que j'appelle le rotor. Donc deux doigts que je vais tourner.
Lien, caractère.
Voilà, lien, c'était juste là. Hop.
Lien.
Donc là, maintenant, je vais pouvoir, avec mes balayages verticaux, me déplacer de lien en lien.
61, lien.
J'ai mon lien 61.
Utiliser le rotor pour accéder à le lien détecté. Qu'on envoya aussitôt des clercs et des livres pour instruire les habitants de Constantinople. Retour, lien.
Et j'ai eu ma note. Quand elle est finie, retour.
Ajouter un signet.
Alors, hop, retour.
Sélecteur de page. Qu'on envoya aussitôt des clercs et des livres pour instruire les habitants. Lien. Retour, lien.
Et j'active le lien retour et lien je
détecté.
Reviens... normalement au texte, mais là, je ne sais pas pourquoi, toujours à la position de la note précédente dans ce livre-là. Je crois que les livres numériques ne sont pas encore tout à fait toujours bien construits, mais les possibilités techniques existent, c'est ce qui est le plus important à retenir. Donc voilà pour les fonctions principales de navigation dans un livre numérique. Ensuite, une fois que j'ai lu mon livre...
Page 210, iBooks...
Il va y avoir
toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir
du réseau
mobilité.
Social autour du livre. Donc,
toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir.
Je vais vous présenter la seule application que j'ai trouvée, qui est donc Mobilité, qui marche avec Midfly, donc
vous
développée par
dans...
Archimède. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce site ou cette application. Donc je vais pouvoir signaler les livres que j'ai déjà lus, éventuellement consulter. La liste des livres que j'ai envie de lire, me faire des listes d'envie de lecture, partager avec mes amis, et quand c'est possible, aussi me connecter à ma bibliothèque de quartier, la bibliothèque de ma ville. Donc on va pouvoir voir...
L'anneau de feu, profil, onglet,
donc
2
j'ai
sur
des
3.
Onglets en bas de la page,
sélectionner,
accueil,
profil.
Donc, tout à l'heure il y avait du wifi, je me suis logué, j'espère qu'il s'en souvient.
Ma bibliothèque, Bible Lacasse, 3.
Alors, un pseudo.
Ma bibliothèque, mes livres,
donc,
ça m'intéresse.
Par exemple,
je lis. J'ai lu.
Les livres que j'ai lus,
j'ai lu.
Je vais pouvoir
retour.
Les retrouver
bouton
là.
Bouton de retour. J'ai lu. Recherche en cours. Vous recherchez dans.
Ah, il a pas fini.
Afficher plus de résultats. La troisième vengeance de Robert Poupe, Victoria Rêve,
voilà,
Timothée de Fombelle,
livres
François Place.
Que j'ai lu. par exemple, qui sont rentrés là. Et je pourrais, du coup, accueil, aller anglais. Revenir sur l'accueil. Et on va aller chercher les trois mousquetaires.
Vous recherchez dans ma bibliothèque trois livres. Sélectionnez et partout. Book titre, auteur. Recherche titre, auteur. Point de suspension.
Donc champ là, de texte. C'est un champ de texte.
Touchez deux fois l'écran. Champ de texte.
Éditer modification la zone. En
cours. Recherche titre, auteur. Point de suspension.
Alors, de même que vous avez peut-être ces claviers virtuels, vous pouvez aller assez vite en général en tapant. Enfin, moi, je ne vais pas aller aussi vite que vous. Sauf quand je branche, puisque j'ai aussi la possibilité, avec un appareil comme ça, de connecter une plage braille en Bluetooth. Et là, par contre, je pense que je vais très, très vite. Mais on va explorer l'écran. Donc je peux balayer, déplacer mon doigt sur l'écran, et c'est seulement quand je vais lâcher qu'il va retenir la lettre.
T majuscule R R O O O I I Q S S S A 3 M M P O O I U U A Q S S Q P I U Z E E R T T A A O. Bonjour Bi I T R R E E A Z S.
On est au bout. Je vais chercher le bouton pour valider.
Supprimer. Rechercher.
Je double tape.
Trois mousquetaires. Retour. Bouton de retour. Vous recherchez dans ma bibliothèque. Page 2 sur 2. Aucun résultat. Page 2 sur 2.
Ça, c'est ma bibliothèque. Je veux l'autre page.
Trois mousquetaires. Retour. Bouton 3 mousquetaires. Vous recherchez dans 3.
Alors,
aucun résultat pour votre recherche.
Bah c'est dommage.
Page 1 sur 2. Ma bibliothèque. Page 1 sur 2.
Et sur celle-là.
3 mousquetaires. Vous recherchez dans ma bibliothèque. Page 2 sur 2. Aucun résultat pour votre recherche.
Bah alors vous allez. Je ne sais pas pourquoi. Aucun résultat pour trois mousquetaires, c'est quand même assez étonnant. En tout cas, vous avez vu la façon dont on peut saisir un texte, et après, du coup, j'aurais pu le sélectionner, l'ajouter à ma bibliothèque, et en faire profiter éventuellement les amis que j'aurais détectés par cette application. Voilà pour l'essentiel, je pense, de ce que j'avais à vous présenter. Moi qui me reste beaucoup de temps, mais je ne pense pas.
Non, mais ça peut être 2 minutes.
Non, je crois que pour les fonctions en tout cas standard, c'est bien.
Peut-être dire un mot des formats qui sont lisibles sur iBox.
Le mieux, c'est toujours l'EPUB.
Ma bibliothèque.
Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque pour le coup, l'expérience que nous avons faite avec nos lecteurs
iBooks,
en profitant d'une opportunité qui était proposée par le Collège international de philosophie.
Il est pour quelques.
C'est avec un livre
3 barres sur
en
3,
PDF
bibliothèque.
Et
bouton.
Beaucoup moins convivial.
L'homme qui plonge, stop. La tulipe noire, l'homme, intersection,
Donc un livre qui a été fabriqué à l'occasion
paysage.
Des 30 ans du Collège
bouton
international
principal
de
à droite.
Philo.
Philosophie.
Donc avec, bon là une orientation paysage, je suis désolée. Enfin, moi je... Oui, pour vous c'est l'image est de côté là, ou elle est rétablie? Elle est en paysage, mais elle s'affiche bien. D'accord.
Mais elle s'affiche bien.
Elle s'affiche bien. Voilà, donc on passe effectivement en paysage, mais du coup un système sur un livre PDF souvent beaucoup moins facile de se déplacer de façon fluide d'un chapitre à l'autre. Par exemple là, se déplacer dans un livre qui est quand même un livre de philo avec la table des matières, ça marchait beaucoup moins. Maintenant, avec les livres EPUB, on a rarement des difficultés, très rarement des difficultés. Et de plus en plus de livres sortent en EPUB, parfois même la veille de la sortie en librairie. Donc on fait partie maintenant des gens qui effectivement achètent le livre numérique et le lisent. Et on finit de le lire quand il sort en librairie parce qu'on l'a lu toute la nuit sur notre iPad. Donc en tout cas, j'espère en tout cas avoir convaincu que la convergence des usages pour cette façon de fonctionner, elle marche et elle marchera de plus en plus.
Bien. Merci beaucoup, Hélène. Bon, je crois qu'on a pu voir là qu'effectivement, il y a une réelle expertise sur ces nouveaux usages du livre numérique et que là, c'est plus nouveau du tout. Hein. Enfin, c'est intégré. Donc, on prendra les questions à la fin du débat et je vais inviter Simon à rejoindre le pupitre. Et on va donc maintenant parler de l'application Muséo.
Bonjour. Déjà, merci d'être venu. Et puis, merci de m'avoir invité. Merci à Marie Noël pour l'organisation. Moi, je vais vous parler de médiation accessible à la base vers le public sourd. Et puis, je vous expliquerai après comment on a élargi notre champ de travail. Et donc, cette réflexion sur l'accessibilité universelle. Et essayer de valoriser le travail que chacun dans son espace peut faire et le valoriser auprès du grand public, c'est-à-dire est-ce que c'est un travail qui est uniquement dédié à un public cible qu'on avait choisi de cibler au démarrage, ou est-ce qu'en fin de compte la plus-value générée elle n'est pas beaucoup plus large. Donc pour vous donner une petite carte de visite de Signe de Sens, donc j'ai créé l'asso il y a 10 ans. La question au tout début c'était l'accessibilité pour les personnes sourdes à tout ce qui était culture, éducation. On a travaillé sur énormément de sujets très différents, hein, du cinéma, la bibliothèque, les festivals, les spectacles, les livres pour enfants, enfin les écoles, etc. On a vraiment eu la chance de travailler dans beaucoup d'espaces très très divers. Aujourd'hui, on a, on va dire, trois univers de travail, c'est-à-dire un qui est sur la conception d'outils multimédia accessibles. Donc c'est toujours des outils multimédia qui ont une vocation soit de médiation culturelle, soit d'éveil à un sujet, soit de formation. Ensuite, on a des médiateurs sourds qu'on fait intervenir dans les musées. Donc, on organise des visites en langue des signes et on fait en sorte que les musées puissent accueillir du public sourd dans une démarche différente de celle dont ils avaient l'habitude. Donc, on essaye d'être le petit trait d'union entre les deux. Et puis, ça marche très bien puisqu'on en a, on a entre 200 et 300 visiteurs par an sur ce dispositif-là. Et ça nous a permis de travailler quand même avec pratiquement tous les musées de notre territoire. Donc, puisque moi, nous, on est basé à Lille et donc on travaille beaucoup sur le territoire Nord-Pas-de-Calais, mais aussi un peu partout en France. Et puis, tout ce qu'une partie formation conseille, c'est-à-dire que de plus en plus, on accompagne des gens dans leur réflexion d'accessibilité où on fait des formations pour diffuser les savoirs que nous, on développe au fur et à mesure des projets. Dans la conception d'outils multimédia, vous voyez, il y a des livres DVD. Donc, ça fait à peu près 9 ans qu'on travaille sur la création de livres jeunesse, avec une partie livre et une partie vidéo, et comment faire collaborer les deux supports pour essayer de maximiser l'accessibilité. Alors pourquoi une partie livre et une partie vidéo, et sachant qu'en plus la partie vidéo a du son, alors que c'est pour les sourds. Le premier pas qui nous a fait aller vers ça, c'était tout simplement que la plupart des enfants sourds sont dans des familles entendantes, et qu'on voulait absolument que le livre reste cet objet de collaboration parent-enfant, de lien affectif, mais aussi de collaboration frère-sœur, frère-frère, sœur-sœur, etc. Donc il fallait que ce soit accessible à tout le monde si on voulait garder la place du livre comme objet liant, et aussi d'expérience commune. Donc il y avait deux gros enjeux, la partie plaisir, c'est-à-dire qu'un enfant sourd se rappelle de certains livres comme d'un plaisir, ce qui n'est pas du tout une évidence aujourd'hui, et la deuxième, c'est qu'au niveau familial, il y ait un lien qui soit aussi tissé autour de certains objets livres. Même si on ajoute la vidéo, peu importe, entre les mains, j'ai bien le livre. Donc voilà, donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que certains acheteurs, et de plus en plus d'ailleurs, on est à plus, je pense, plus d'un tiers des acheteurs aujourd'hui de nos livres, qui sont entendants et qui n'ont pas de rapport avec les sourds. Donc là, on s'est dit, tiens, pourquoi ? Et quand on les interrogeait, on en arrivait à des choses du genre, bah, c'est différent, c'est original. Il aime bien parce qu'il y a un peu plus d'importance de l'image, du mouvement, il y a du geste, et il aime bien bouger, il a besoin de bouger, etc. Donc c'est aussi ça qui nous a mis beaucoup sur la piste. Alors c'est la petite citation que j'aime bien utiliser juste au tout début. Voilà, je vous laisse la lire. Donc Einstein a dit plein de choses, il y a plein de citations qui circulent et celle-là est une de mes préférées. Oui, donc je vais vous la lire, mais bon. Donc voilà, c'est tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et c'est un peu ce que nous, on a constaté avec les sourds, c'est qu'au final, on a passé beaucoup de temps à essayer de les faire ressembler à ce qu'ils n'étaient pas et pas forcément à travailler leurs compétences, leurs aptitudes, ou en tout cas à leur proposer des outils qui leur correspondaient pour leur permettre de développer leur potentiel à eux. Et nous, c'est vraiment, vraiment, le fondement de notre démarche, c'est adapter l'outil, pas adapter la personne. Comment on incarne concrètement ça ? On a un processus de recherche-action, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas forcément tout savoir, ce n'est pas du tout le sujet. Par contre, on crée des outils qu'on va énormément tester. C'est-à-dire que, bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas faire de la technologie pour de la technologie. Donc, il ne s'agit pas de dire achetez un iPad, ça va changer votre vie. Enfin, voilà, c'est pas la technologie qui prend le dessus, c'est l'usage que vous allez faire de la technologie et puis les applications que vous allez utiliser ou les façons que vous allez avoir de l'utiliser. Donc, c'est hyper important de remettre la technologie à sa place, c'est-à-dire la technologie sert, elle doit servir un projet. Donc, c'est bien vous qui primez avec votre projet. Ensuite, on développe la réflexion sur l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'à partir d'une question qui va être, par exemple, dans un musée, comment je propose un outil multimédia d'aide à la visite pour les sourds, nous, on va plutôt dire comment on propose un outil d'aide à la visite multimédia qui permettrait à tout le monde de visiter, y compris les sourds. Donc ça change tout le périmètre de la question. Ça change aussi les budgets en général. Ensuite, puisque vous ne faites pas deux fois le même travail, en fait. Et ensuite, valoriser l'apport des publics dits fragiles. Ça, je vais vous le détailler après sur quelques exemples. Donc, en premier lieu, je voulais montrer des choses que nous, on n'a pas faites. Donc ça, typiquement, vous avez ça dans les avions. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a une image, et on rajoute quelqu'un en langue des signes. Alors, bon, la langue des signes est incompréhensible, hein, parce que je l'ai déjà vu en direct. Elle a été faite par une personne qu'ils ont formée en interne et qui a fait les séquences traduites. Enfin, c'est une catastrophe. Mais ça, indépendamment de ça, c'est juste que là, vous voyez un média qui n'est pas pensé au départ accessible, qui a été fait, et après, on s'est dit, ah oh, zut, il va y avoir des sourds. Et donc, on a rajouté une bulle dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des couches. C'est-à-dire que j'empile des couches pour essayer de rendre de plus en plus accessible. Et puis, au final, il y a tellement de couches que plus personne ne s'y retrouve. C'est aussi ce que vous avez à la télé. Puisque ce qui est marrant à la télé, c'est que vous avez finalement la personne qui traduit en langue des signes dans un tout petit médaillon et la personne qui parle dans un très grand médaillon. Pas tellement logique. Donc, voilà, c'est là aussi un problème de conception de départ. C'est-à-dire qu'on n'inclut pas la contrainte. Et comme on n'inclut pas la contrainte, on a un média qui n'est pas terrible parce qu'il est bricolé. Au moment où on a dit c'est fini, quelqu'un a dit non, il faut faire un truc en plus, et du coup, bah, ça a été fait en urgence, sans budget, et comme on pouvait. Le deuxième, c'est ça, c'est j'ai plein de choses à dire, donc je vais vous les écrire. Voilà, donc c'était un peu notre parti pris de départ sur le projet Muséo, c'est qu'un musée a toujours énormément de choses à dire. Donc il y avait plusieurs enjeux, c'était d'une part la question d'accessibilité, mais aussi la question d'envie. Comment je fais en sorte que les gens aient envie de découvrir ce qui est écrit sur ce texte? Est-ce qu'ils en ont envie? Et de quoi je vais parler si je dois choisir? Oui, pour la petite histoire, donc vous voyez, là, c'est pareil. Hein, vous écrivez un texte en grand au mur parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Donc voilà. Et ensuite, comme vous savez qu'il y a d'autres publics qui soit ne peuvent pas lire parce qu'ils ont des déficiences visuelles ou ont du mal à lire parce qu'ils ne savent pas bien lire, etc., vous rajoutez un audio. Du coup, vous rajoutez un picto. Du coup, vous devez... Enfin, etc. C'est toute une chaîne assez laborieuse. Alors... Donc le projet qu'on a mis en place qui s'appelle Muséo, c'était il y a 3 ans, on a développé un outil d'aide à la visite dans le Quai Branly. L'idée c'était de dire finalement un visioguide ça peut être quelque chose de scénarisé, d'enthousiasmant, d'intéressant et puis surtout d'engageant. C'est-à-dire comment faire en sorte que ce ne soit pas une visite passive mais interactive. Et tout ça bien sûr avec le socle de conception universelle, c'est-à-dire dans ce cadre-là en tout cas accessible aux sourds, accessible au grand public. Juste pour rebondir sur conception universelle, ce qu'il faut comprendre dans le terme conception universelle, c'est pas que vous faites un objet parfait pour tout le monde, c'est que vous avez une démarche qui vise à ce que petit à petit vous alliez vers ça. Donc c'est un peu comme les arcs-en-ciel, vous les touchez jamais, mais vous y allez. C'est un peu la même chose pour la conception universelle. C'est beaucoup plus une question de démarche qu'une question de réussite. Par exemple, Muséo n'est pas accessible aux déficients visuels, clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas. Mais ce sera l'étape d'après. Là, en ce moment, on en développe un autre. Enfin, bon, je vous en parlerai aussi après. Mais donc, c'est vraiment une question de démarche. C'est-à-dire juste ce qui est important au départ, c'est que tout le monde en tête se dise, OK, partons du public, de ces différents publics, et essayons de construire quelque chose qui peut les satisfaire. Qu'est-ce que ça génère comme créativité, comme nouvelles idées, comme nouvelles approches, etc. Donc, je vais juste vous montrer un tout petit extrait pour vous expliquer. Vous voyez des enfants en bas. Donc en l'occurrence des enfants sourds. Le principe c'est simple, vous avez un iPad pour 2-3 enfants et vous les laissez tout seuls dans le musée avec. Et ils font le truc. Nous on a fait suivre par des chercheurs de l'université. Donc la première étape c'était ça, un test. On a produit un prototype, on a mis en test et des chercheurs extérieurs ont suivi. Et on a en plus fait du déclaratif des enseignants et des enfants. Donc je vais vous montrer juste un tout petit extrait. Le principe c'est que ça fonctionne d'un menu vers une vidéo. Donc... le menu vous permet de. Oups. Le menu vous demande des interactions, mais je vous en reparle juste après. C'est un peu petit. Bon, je vais faire mon plan B.
Il s'agit d'une technique d'agriculture spéciale. Je vais vous expliquer. Regardez.
Je fais juste une petite pause. Donc vous avez vu un comédien en plein écran qui est celui dont on a besoin de voir le corps et l'expressivité en langue des signes. Le sous-titrage en dessous. La voix off qui redit le sous-titrage, sachant que par contre elle est très fortement calée sur le jeu du comédien, sur la langue des signes, etc. pour synchroniser tous les médias. Et ensuite, des inclusions de différents éléments à l'image. Donc il y a le comédien dans son univers, contextualisé. Et puis des éléments graphiques qui viennent être rajoutés, ou là dans le cadre du Quai Branly, vu que c'est ethnologique, des éléments d'archives qui permettent de dire ah, voilà ce que je vois autour de moi, et qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis des séquences explicatives.
Vous vous rappelez ? Juste avant, nous avons vu les hommes faire des trous dans le sol. Ensuite, les femmes déposent les graines dans les trous. C'est vraiment différent. Sur un sol brûlé, les plantes poussent vraiment mieux que sur une terre simple. Une femme arrive. Elle porte cet objet. Cherchez et trouvez-le.
Donc voilà, je ne sais pas si je peux remettre la toute dernière image.
Ah. Ouf, merci pour ce précieux conseil.
C'est un jeu de course.
Il fallait laisser le feu brûler.
J'ai tenté le truc. Voilà, donc ça c'est un des menus. Bon, c'est les menus les plus simples. C'est ceux où on demande à l'enfant de trouver un nouvel objet pour continuer la quête. Le principe, c'est que le personnage que vous avez vu est un ethnologue, il est sur le terrain et il demande à l'enfant de compléter ce qu'il voit et ce qu'il découvre à partir de ce que l'enfant trouve dans le musée. Concrètement, on n'a pas du tout encadré les enfants, ils ne sont pas du tout sortis de l'activité, c'est-à-dire que c'était un des points d'accroche des chercheurs, c'était la concentration dans l'activité sur le support. Il n'y a jamais eu d'écart sur les groupes qu'on a testés. Il y a eu beaucoup de collaboration entre les enfants, donc ce n'était pas autistique du tout comme activité. Ils échangeaient beaucoup pour essayer de trouver la bonne réponse, trouver l'objet, etc. Et surtout, on avait beaucoup d'enthousiasme à la fin. C'est-à-dire que un des critères du projet, c'était qu'est-ce que les enfants retiennent aussi à la fin. Et donc, on faisait dessiner aux enfants les éléments qu'ils avaient vus. Et on comparait avec une visite classique, avec un guide en langue des signes, avec un groupe test. Et on trouvait beaucoup plus d'objets cohérents par rapport à la visite après l'iPad que dans la visite classique. Pour une simple raison, c'est qu'ils pratiquent beaucoup plus l'image et ils interagissent beaucoup plus avec les éléments. Donc là aussi, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est mieux les visites avec l'iPad ou est-ce que c'est mieux les visites avec le guide. Parce que par exemple, l'iPad ne répondra pas à vos questions. Enfin, si vous avez des questions, s'il y a un truc que vous voulez revoir, l'iPad ne peut pas. Parce que c'est scénarisé, c'est mécanique, c'est automatisé, etc. Donc chaque espace a ses apports. Mais imaginons que dans un premier temps, on laisse les enfants avec l'iPad pour créer de l'enjeu, créer de l'envie, créer du plaisir. Et puis après, une reprise avec un adulte, où là on revisite le musée sur les questions, etc., les points d'intéressement plus précis, etc. Là on commence à avoir une démarche intéressante en termes de médiation par étapes. Donc voilà, c'est juste ce projet-là que je voulais vous montrer. À la fin de cette première expérimentation, donc il y a 2 ans, le musée a été convaincu, c'est-à-dire que les résultats ont été suffisamment bons pour qu'ils décident de l'implémenter dans le musée, avec une offre grand public, c'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif pour les sourds. Si vous allez au Quai Branly, si vous allez à l'accueil, vous pouvez l'avoir, que vous soyez sourd ou pas. Donc on avait réussi notre première pirouette de dire à partir d'un projet pour les sourds, on peut arriver à un projet pour tout le monde. Donc c'était vraiment notre première grande réussite en termes de mise en place de dispositifs. Et on a déjà pas mal de retours plutôt chouettes. Et la suite de ça, c'est qu'on l'a fait tester aussi à des groupes de gamins autistes ou avec des troubles intellectuels. Et on a eu des très bons retours. Il y a plein de choses qui font que ce n'est pas parfait, bien sûr. Donc du coup, on est en train de développer une deuxième expérimentation avec le Palais des Beaux-Arts à Lille pour déployer le même dispositif, mais cette fois en incluant les publics autistes ou déficients intellectuels dans le projet. Donc voilà, c'est ce que je vous montre, c'est ce que je vous expliquais en termes d'itération avec je fais un prototype, je teste, les tests sont intéressants, je fabrique un objet, je refais un autre prototype, j'améliore, etc. Donc ce qu'il faut retenir de Muséo, c'est surtout la démarche. Donc le lien avec le public et le lieu, c'est-à-dire passer pas mal de temps ensemble pour essayer de bien se sentir, de bien se comprendre. Un cahier des charges écrit, ça suffit largement pas. Ensuite, le définir le projet éducatif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que technologie ou pas technologie, hein, peu importe ce qui va transmettre l'information, la première chose c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre c'est quoi votre projet. Et je veux dire que ça paraît tout bête, mais tous mes rendez-vous avec mes partenaires, ça commence toujours par ça, remettre au clair, c'est quoi le projet, c'est quoi l'envie vraiment, etc. Ensuite, identifier s'il y a besoin les technologies qui seraient pertinentes pour répondre à ce projet, et ensuite développer, installer et surtout évaluer. Puisque s'il n'y a pas d'évaluation, je ne vois pas bien comment on peut savoir si ça vaut le coup de le dupliquer, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau du public, etc. Donc, nous, les évaluations, c'est un des gros sujets de travail. Donc voilà, en termes de déclinaison, comme je vous disais, on a le test qu'on fait en ce moment pour des enfants autistes et déficients intellectuels. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec les gamins autistes pour tester, sentir un peu comment ils réagissent devant certains types de vidéos, devant certains contenus, etc. Donc voilà, c'est un long processus, mais assez passionnant. Et puis ensuite, on fait une version hors-site, c'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est dommage parce que finalement, l'application qu'on peut utiliser dans le musée, on pourrait l'utiliser ailleurs. Et la version déclinée du principe, qui est bon, peut-être plus en lien, d'où le fait que j'ai fait un clin d'œil bibliothèque, mais en fait, la démarche de muséo, elle est déclinable dans n'importe quel type de contexte d'apprentissage ou de découverte. Et vous pouvez très bien imaginer d'avoir quelqu'un qui doit faire des découvertes et que l'enfant doit parcourir un certain nombre de livres qu'il doit trouver lui-même dans la bibliothèque pour compenser, compléter, dialoguer avec l'autre personne, etc. Donc, après, je pense que vous pouvez tout à fait vous l'approprier dans vos démarches ou dans vos enjeux pédagogiques ou éducatifs. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, nous, on est aussi là pour ça, mais... du coup, je voulais juste vous parler de 2 autres trucs qui peuvent être des ressources intéressantes pour vous, mais je vais parler vite. De toute façon, c'est la fin, donc je vous rassure. Donc c'est juste, on a fabriqué un dictionnaire de français en langue des signes qui est une plateforme web libre, gratuite. Voilà, vous ne trouverez pas une plus grosse ressource. L'idée, c'était de faire un dictionnaire, un vrai dictionnaire, c'est-à-dire vous n'avez pas le mot pomme et le signe pour la pomme de l'arbre. Vous avez un mot pomme qui a plusieurs sens et pour chaque sens, il y a un signe différent. Donc avec ces 3 enjeux, d'aider les sourds dans leur acquisition du français, d'aider au développement de la langue des signes et d'aider les gens qui apprennent la langue des signes. Donc c'est un dispositif qui est disponible sur le site internet elix-lsf.fr ou sur les applications mobiles, sur tous les smartphones. Pour vous donner juste une idée, voilà, c'est ça. Enfin, ça c'est la version mobile, mais c'est la même chose sur internet. Vous cherchez un mot, sur le 2e écran, vous voyez, il y a plusieurs sens proposés. Et sur chaque sens, quand vous avez un rond qui est plein, ça veut dire qu'une vidéo est disponible. S'il est vide, ça veut dire qu'une vidéo n'est pas disponible. À la partie bleue, vous avez les définitions qui sont traduites, c'est-à-dire une personne sourde qui chercherait le sens du mot, elle peut trouver la version écrite de la définition ou la version en langue des signes. Donc ça, c'est comprendre le sens. Et la partie orange, c'est les signes, c'est-à-dire quel est le signe pour ce sens. Et il faut faire vraiment la distinction parce qu'elle n'est jamais faite et c'est très dommageable. Donc voilà, et après vous arrivez sur un écran, donc en haut, vous voyez la partie définition en LSF en bleu, où la personne sourde traduit complètement toute la définition. Donc elle va dire ce qu'on est obligé de faire pour le sens 2 de devoir. Et dans la partie 2, vous voyez, c'est des signes. Donc là, on peut voir quel est le signe pour. Vous pouvez apprendre des signes. Il y a aujourd'hui 15 000 vidéos sur la plateforme, donc il y a de quoi s'occuper. Ensuite, on a fait un e-book, on a testé pour voir un peu à la fois le format et puis voir ce que ça pouvait apporter ou pas, notamment sur les publics autistes aussi. Donc, il s'appelle Animaux en mouvement, que vous pouvez télécharger par contre là que sur iPad. Et on a fait, pour rebondir, on a fait des tests dans pas mal de familles. On a fait des tests sur les gamins autistes aussi, sur 130 enfants autistes. 130 enfants, ça veut dire presque 1 an de travail pour faire les tests, les processer, analyser les résultats, dialoguer avec les professionnels et les parents, etc. Donc, toujours dans la même démarche. Et puis voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est ça la conclusion, s'il faut retenir une seule chose de tout ce que j'ai dit, c'est ça, c'est avant tout la démarche, c'est-à-dire ne pas penser que les publics fragiles, c'est une surcharge de travail en fait. C'est avant tout une opportunité de voir les choses autrement, de reconstruire les pratiques et d'offrir des choses nouvelles au grand public. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. Je pense que vous ne le savez pas forcément, mais les vibreurs sur les téléphones, ça a été inventé pour les sourds. Aujourd'hui, tout le monde s'en sert, ce qu'on appelle du transfert d'innovation. Ben en fait, on peut faire la même chose sur tous les sujets, notamment l'éducatif, le pédagogique. Et nous, c'est exactement la position où on est. C'est-à-dire, avec chaque public qui a une problématique particulière et une composante particulière, on peut inventer un truc qu'on n'aurait jamais inventé ailleurs. On va sur la Lune pour comprendre ce qui se passe sur la Terre. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est l'atypisme qui crée l'idée. Donc voilà. Donc nos 3 étapes, c'est effectivement créer des outils innovants, former à l'accueil. Voilà, donc travailler avec les gens pour leur faciliter l'appréhension du public. Et puis là, on démarre un projet de formation des bibliothécaires à l'usage de nos outils, avec l'idée justement de les aider à s'approprier les outils et comment les transférer vers le grand public, parce que ce n'est pas une démarche forcément évidente. Donc, dans cette logique-là de diffuser l'approche qu'on peut avoir ou les outils, c'est le truc. Voilà, j'étais long. Pardon. Ben, merci en tout cas.
Merci Simon d'avoir notamment rappelé cette logique de l'accessibilité universelle à laquelle nous sommes très attachés au sein de la commission handicap. Donc maintenant je passe la parole à Jean-Michel Ramos qui va vous décrire en fait le projet mené à Toulouse sur la mise en place d'un outil d'accessibilité des collections via la RFID. Aujourd'hui la plupart de nos bibliothèques sont équipées en RFID et donc on a mené une réflexion sur comment servir de ce dispositif pour en faire un vecteur d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles notamment. Jean-Michel, c'est à vous, je mets juste en place le diaporama.
Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous présenter un dispositif qui permet l'identification de documents via un appareil spécifique. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure de mon exposé. Et ce dispositif est à viser pour une meilleure accessibilité à un fonds documentaire à une bibliothèque. Donc cette identification vocale d'un fonds documentaire, donc elle s'appuie sur une synthèse vocale du Mellestone et via les étiquettes RFID qui peuvent être présentes sur les documents d'une bibliothèque. Ceci en effet pour permettre à un déficient visuel de pouvoir faire son choix de document en vue d'un emprunt. Ce dispositif est déjà en fonction depuis un an à Médiathèque José Cabanis de Toulouse. C'est un dispositif qui est entièrement informatisé, comme je vais vous le démontrer tout à l'heure. Présentation du Mellestone. Donc, je pense qu'il est à l'écran.
Oui.
Donc là, je le tiens dans ma main. C'est un appareil de petite taille, très léger. Physiquement, il peut ressembler à un briquet un petit peu aplati. Voilà. Une télécommande, en effet, parce que sur sa face avant, on va retrouver 5 touches pour faire fonctionner l'appareil. Puis juste dessous, on voit bien un petit haut-parleur. En termes de connectique, on va y retrouver une prise casque et bien évidemment une prise USB pour la connexion sur l'ordinateur. C'est un appareil muni d'une mémoire interne de 1 gigaoctet plus extension possible avec une SDRAM de 32 gigaoctets. En termes d'autonomie, on voit bien que c'est 20 heures, donc c'est assez bien pour un temps de charge de 3 heures.
C'est bon.
C'est fonctionnalités. Fonctionnalités de base, écoute de livres audio, MP3 ou autres formats, écoute de livres DAISY, donc DAISY Digital Access Information System, qui est une méthode de structuration de livres audio qui va en permettre donc de naviguer par titre et sous-titres, etc. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Écoute de livres et pubs non cryptés, non protégés, et écoute de livres TXT via une assez bonne synthèse vocale que je vous montrerai tout à l'heure. Des fonctions de base, possibilité d'avoir un agenda, alarme, radio, FM. Mais surtout, l'intérêt, c'est d'avoir une possibilité d'utiliser la RFID. Alors, à titre domestique, dirons-nous, on va pouvoir labelliser, les déficients visuels vont pouvoir labelliser du produit de consommation en donnant avec sa propre voix la date d'expiration de tel ou tel ingrédient. Il faut bien se dire que ce produit se trouve en vente auprès des magasins spécialisés ou d'équipements spécifiques pour personnes ayant un handicap visuel. Alors, mise en place du dispositif pour une utilisation en médiathèque. Le but, c'est de pouvoir lier une technologie d'étiquette RFID à l'option RFID de l'appareil. C'est de pouvoir ainsi prendre connaissance d'une notice bibliographique d'un document. Alors, en amont, on va se poser la question quelles vont être les informations pertinentes pour un déficient visuel, pour qu'il se donne le choix d'emprunt ou pas. Alors, par exemple, pour ceux qui font du catalogage, on peut se dire que la zone 100, 245, 300, ce sont des zones très intéressantes, 520 aussi, etc. Donc, c'est de dire le titre, l'auteur, le résumé, peut-être la collation. Ce sont des zones intéressantes, mais par contre, d'autres zones ne peuvent pas être incluses dans cette extraction. Parce que l'idée étant de fabriquer une extraction de données avec le SGB de la médiathèque et ainsi générer un catalogue qui va regrouper ces données pour enfin copier cette base de données dans la mémoire interne du Mellestone et ainsi en faire une prise de connaissance en audio. Juste à titre d'information, un chiffre. À la médiathèque de Zecavanis, nous avons environ 200 000 documents, ce qui donc représente 200 000 notices bibliographiques, peut-être même plus. Mais pour 200 000 documents, cela occupe le quart de la mémoire du Mellestone. Parce qu'ici, on est. Donc ça fait énormément de notices, mais ce sont des notices textuelles, donc ça ne prend pas beaucoup de place, vu que le rendu vocal va être donné par l'appareil lui-même. Adaptation du Mellestone. Donc, en effet, comme il s'agit d'un usage détourné de son usage premier, donc il va falloir modifier ce Mellestone-là et ainsi installer le micro-logiciel spécifique pour l'identification de documents et y embarquer également le catalogue des notices bibliographiques afin de l'alimenter. Alors, ce qui veut dire qu'une personne déficiente visuelle possédant déjà un Mellestone ne va pas être compatible avec le Mellestone qui va permettre l'identification. C'est pour cela que dans la médiathèque José Cabanis, nous proposons deux Mellestone qui vont être prêtés à des déficients visuels et ainsi ils vont en faire, donc, faire visite, enfin faire le choix de leurs documents dans l'ensemble des étages de Cabanis, puis à leur sortie, ils rendent à l'accueil le Mellestone adapté. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je prends mon Mellestone.
Bonjour.
Voilà. J'ai pris un livre audio. Je vais essayer de le rapprocher au maximum du micro sans le toucher, mais ça peut être... voilà. Alors, voilà, il émet un petit claquement, ça veut dire qu'il est en recherche d'étiquette. Je vais donc balayer ma surface. Voilà, donc ce bruit indique bien qu'il a retrouvé une étiquette RFID. Je vais lâcher et il va en donner lecture.
Homme entre l'enregistrement sonore, Jean-Paul Dubois. Interprète Jacques Frantz. Dubois, Jean-Paul. Paul Hasselbank, Toulousain. Divorcé, atteint d'une maladie incurable, n'attend plus reine de la vie, sauf une ultime rencontre avec Anna, la femme qu'il a quittée. Il entreprend un long périple qui le mène jusqu'à North Bay, petite bourgade de l'Ontario. Non loin de la vie Floyd Patterson, célibataire, qui a également partagé sa vie avec Anna. Une tempête de neige va réunir les deux hommes. Point. Un CD MP3, 5h15. Livre sonore. Fin de la notice.
Voilà. Donc là, j'ai pris un livre audio. Je vais maintenant prendre de la musique. Je vais recommencer cette détection d'étiquette. Voilà.
With the Beatles.
Hop. Donc je l'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était de l'anglais. Alors il ne fait pas la détection automatique de l'anglais. Je vais devoir passer manuellement en langue anglaise.
This is Rachel talking UK English. Voilà. Quality 50.
C'est parti.
With the Beatles. Beatles. One CD. It won't be long. All I've got to do. All my loving. Don't bother me.
Voilà, je l'arrête. Donc en effet, c'est beaucoup mieux. On comprend un peu mieux quand même. Donc il faut bien se dire qu'il y a 6 langues. Enfin, j'ai installé 6 langues, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais. Ceci dit, on pourrait y mettre d'autres langues, sans souci. Le principe étant que le Milestone va lire sur l'étiquette le numéro d'identification du document, puis dans la base, il va y le rechercher et en donner la lecture audio de la notice bibliographique dont on a sélectionné les zones précédemment. Les partenaires du projet. Alors, en interne, on a beaucoup travaillé avec le SGB, évidemment, pour sélectionner les différentes zones selon le matériel du support. Puis, évidemment, en externe, on a donc sollicité, donc il y a 3M, mais bon, ceci dit, il s'agit de votre fournisseur d'étiquettes RFID pour qu'ils puissent en donner les spécifications d'encodage des étiquettes afin de pouvoir les transmettre à Bonds. Donc la Bonds, c'est la société suisse qui a conçu le Milestone dans son usage domestique, mais pour qui, avec qui on a travaillé pour un usage en médiathèque. Et puis un troisième partenaire, Access Solutions, qui est une société qui revend du matériel spécialisé, avec qui on a traité avec les Suisses pour mener à bien ce projet. Coût de la mise en place du dispositif. Donc le Milestone en soi, c'est 450 euros. Bon, ce n'est pas un budget énorme. Ce qui est peut-être un peu plus énorme, c'est le coût du micro-logiciel, 6500 euros. Mais il faut bien voir qu'il s'agissait d'une première, je pense, en médiathèque, ce qui a nécessité un temps de recherche, un temps de développement et de programmation, ce qui explique peut-être qu'on a mis 2 ans à mettre au point ce dispositif. En conclusion, cela fait donc 1 an aujourd'hui, peut-être 1 an et demi, que ce dispositif est en place à Toulouse. Donc on se rend compte que les personnes déficientes visuelles maîtrisant la technologie dans son contexte personnel n'a pas eu du tout de mal à s'approprier le fonctionnement de cet appareil, parce qu'en effet, c'est pas tellement compliqué. Cela a répondu aussi à des personnes qui ne peuvent pas lire une jaquette visuellement du fait de sa typographie ou de la couleur du texte ou de la couleur du fond de l'image. Et cela n'a pas nécessité non plus d'équipement supplémentaire à la médiathèque parce qu'on s'appuie vraiment sur les étiquettes RFID qui sont utilisées pour un usage médiathèque standard. En termes d'utilisation, on voit bien après 1 an que les personnes déficientes visuelles avaient toujours recours au médiateur lorsqu'ils avaient une recherche précise d'un auteur ou d'un groupe ou d'un DVD. Mais par contre, cela remplissait toutes ses fonctions pour les usagers qui aiment fouiller dans les bacs, découvrir par eux-mêmes un auteur ou un groupe de musique. Voilà, donc ben, je tiens à vous remercier pour votre attention. Et, et mon PPT reste à disposition de l'ABF.
Merci beaucoup Jean-Michel pour cette intervention. Je précise que c'est vraiment Jean-Michel qui a mené ce projet de A à Z. Et donc là, on voit bien quel intérêt on a, nous, en bibliothèque, à récupérer, à essayer d'adapter des objets en fait, dont les personnes handicapées se servent au quotidien, là, pour taguer leurs produits. Mais on a une application, là, vraiment très... très précise de ce qu'on peut faire en bibliothèque et en conjuguant à la fois nos technologies et les technologies qui sont utilisées par les personnes handicapées. Donc, dernière intervention, Françoise Sarnowski, qui va donc vous parler en fait des applications adaptées que vous pouvez sélectionner et mettre sur vos tablettes à l'usage des personnes handicapées.
Donc il y a aujourd'hui de très nombreuses bibliothèques municipales ou départementales qui achètent des tablettes et qui constituent des salons du numérique ou des espaces, en tout cas, au sein des bibliothèques dans lesquels les usagers peuvent au moins manipuler le support et se faire une idée de ces tablettes. Maintenant, pour nous, professionnels, se pose bien sûr la question des contenus. Donc il y a eu hier, notamment, un atelier sur la lecture numérique. Là, je vais vous parler plus particulièrement d'applications, parce qu'il me semble que notre métier aujourd'hui, de même que nous faisons une veille sur l'édition, notre métier maintenant, c'est de faire une veille sur les applications. Il y en a des milliers qui sortent, alors en plus, tantôt pour des tablettes iPad, tantôt pour des tablettes Android, donc il y a déjà la différence des supports, avec plusieurs boutiques pour les acheter, et on peut être un petit peu perdu dans tout ce qui sort. Donc mon propos, c'est un petit peu de dire, bah, soyons vigilants dès maintenant, en parallèle de la mise à disposition des supports, pour essayer de trier dans toute cette masse d'applications celles qui vont pouvoir être utiles, et notamment par rapport au travail que nous faisons auprès des publics en situation de handicap. Alors, je n'ai pas du tout prétention de vous faire un panorama exhaustif. Je ne dis pas que les 15 que j'ai choisis sont les meilleurs, parce que vous aurez sûrement en tête d'autres exemples d'applications excellentes. Mon idée, c'est plutôt de montrer un petit peu l'éventail des catégories, de la typologie un petit peu d'applications, pour voir un petit peu dans quel secteur on peut les trouver. Alors, voilà, j'appelais ça Bon App. Et alors, pour... que ce soit un petit peu plus ludique aussi. Je me suis amusée à décerner des palmes d'or, puisque le Festival de Cannes n'est pas loin. Donc ça va être un petit peu, bien sûr, ma palme d'or sera à la fin. Alors dans la catégorie application d'enregistrement, il y a l'application Quick Voice. Donc là encore, hein, il en existe d'autres, mais ne vous attachez pas spécialement au titre des applications, mais plutôt à ce qu'elles vont permettre de faire. Alors l'intérêt d'un outil comme ça, d'une application comme ça, c'est tout simplement de s'éviter de toute la saisie, toute la frappe de texte. Donc pour les publics, donc à chaque fois sur chaque application, je mets un peu les publics qui peuvent être visés, tous les publics qui ont des problèmes de dyslexie, des problèmes cognitifs, des problèmes moteurs dès que ça touche aux mains, il va y avoir toujours une difficulté pour écrire, taper des textes. Donc là, c'est tout simplement un petit outil d'enregistrement. Hein. Bon, le petit milestone que présentait Jean-Michel fait aussi dictaphone, mais là, on a ça sur une tablette. Donc une personne qui est dans cette situation de difficulté avec l'écriture, si vous lui donnez vos coordonnées, bah, elle va pouvoir appuyer sur le petit bouton enregistrer et puis comme ça, avoir un enregistrement des coordonnées de la personne. Bon, voilà, petit outil très pratique. Dans la catégorie des utilitaires, alors ce sont des outils un petit peu pédagogiques, mais qui peuvent avoir un intérêt en bibliothèque où nous pouvons être amenés à orienter des élèves ou des étudiants qui vont avoir besoin d'outils très fonctionnels pour les aider dans leurs études et toujours pareil, leur faire gagner du temps. Donc, par exemple, l'éducréation, c'est en fait un tableau blanc interactif. Donc, ça va permettre de mieux organiser son travail et de simplifier la prise de notes. Donc, toujours problème de dyslexie, problème cognitif. Alors, voilà un exemple de document qui peut être utilisé. Donc, en fait, la tablette elle-même, l'iPad, par exemple, peut faire une photo. Donc, vous faites une photo d'un croquis, d'un schéma ou du tableau, de ce que le prof a fait au tableau. Et puis, vous y intégrez du son, puisqu'il y a un petit outil son où là, vous pouvez faire la légende en sonore, en vocal. Et puis, vous pouvez rajouter des petits pavés de texte et puis faire des petits commentaires. Mais l'apport visuel et l'apport du son est très précieux pour la prise de notes. Alors, l'outil MindJet, hier dans l'atelier aussi sur la lecture numérique, on a eu une personne qui nous a... Il y avait une intervention passionnante sur les nouvelles formes d'organisation du savoir. Et il y a cette idée quand même de la représentation cartographique de la pensée. Donc, MindJet, c'est un de ces outils. Il y a d'autres noms aussi, qui va permettre à des personnes qui ont des problèmes dyslexiques ou cognitifs, pourquoi pas les personnes sourdes qui ont aussi de grandes compétences visuelles, d'avoir une représentation graphique des idées au lieu d'avoir des pavés de texte ou des sommaires, des plans de travail. Bon, là, c'est voilà, une version très simplifiée. Donc, vous posez comme ça des bulles avec des mots, ensuite vous reliez, vous faites des liens, vous pouvez intégrer des photos et... Voilà, c'est une manière très visuelle de représenter un plan de cours ou un schéma de pensée. Alors, dans la catégorie La Cité Accessible, deux applications, Handicap FR et J'accède Mobile. Alors, Handicap FR, l'intérêt, c'est de répertorier les stationnements réservés au handicap par rapport à un lieu donné. Donc là, handicap moteur. Donc voilà un exemple. Alors moi, j'ai fait des copies d'écran hein, parce que j'ai gagné un petit peu de temps par rapport à... Je n'étais pas sûre d'avoir la connexion. De toute façon, on n'aurait pas eu la connexion Internet dans cette salle. Mais je l'ai testé hier. Donc on a fait une présentation des applis sur le stand des hybrides. Et donc, ça fonctionnait très bien. Si on fait... toutes les tablettes ont un outil de géolocalisation. Donc là, par rapport à ici, le centre des congrès, vous pouvez interroger pour savoir où sont les places de stationnement réservées au handicap. Donc, c'est un outil très pratique que vous pouvez indiquer aux vos usagers en fauteuil roulant ou en situation de mobilité réduite. Alors, J'accède, c'est assez complémentaire, en fait. C'est un guide collaboratif qui va indiquer tous les lieux publics d'une ville et indiquer leur niveau d'accessibilité. Mais alors, ce n'est pas seulement l'accès au bâti, mais ça va être aussi... y a des observations, des notations sur la qualité d'accueil. Et donc ça, c'est intéressant. Toujours avec un outil de géolocalisation. Donc un exemple, ici, j'avais regardé par rapport au centre des congrès quel était le cinéma le plus proche, accessible. Donc voilà, vous avez une notice. Et puis, si là, on était en ligne, donc on pourrait cliquer sur l'onglet accessibilité et on aurait des remarques qui sont issues de personnes, d'individus, hein, tout simplement, qui ont collaboré à ce guide. Donc si, par rapport à votre lieu de travail, autour de votre bibliothèque, si vous ne trouvez pas beaucoup de lieux répertoriés, il faut faire appel aux associations et aux gens qui pourront faire ce travail d'identification. Et parfois, ce sont des remarques négatives, hein, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur tel lieu, oui, le bâti est super, mais par contre, les toilettes ne sont absolument pas accessibles. Donc, c'est mieux de le savoir avant. Et ça peut être bien dans votre contact avec les usagers. Si vous avez un usager qui va faire un voyage à tel endroit, à Marseille, par exemple, de l'aider à préparer son voyage, puisque soit vous utilisez l'outil de géolocalisation, soit vous pouvez taper une adresse précise n'importe où en France et avoir toutes ces indications d'adresse, de lieu accessible. Alors là, on n'est pas sur des applis pour les personnes en situation de handicap, mais pour le tout public, des outils qui peuvent vous aider à sensibiliser votre public à la différence, au handicap. Bon, il y en a d'autres, mais j'aime bien ces deux-là, donc Braille Now et puis Signe. Braille, c'est tout simplement un outil ludique pour apprendre le braille, avec les yeux, bien sûr, apprendre le braille pour les voyants. mais ça peut être déjà une première approche du braille. Alors voilà, ça se présente. Alors malheureusement, c'est en anglais, mais le braille est international. Donc si vous apprenez avec cet outil, vous saurez aussi bien lire un texte français en braille. Donc il y a d'abord, bien sûr, l'apprentissage de toutes les lettres de l'alphabet en braille. Et puis après, vous apprenez assez vite, puisque ce sont des petits mots de trois lettres. Et donc, une fois que vous avez repéré notamment les voyelles, vous pouvez assez vite. On s'y prend bien, hein, je vous conseille, parce que ça, on rentre facilement dans le braille par ce petit outil ludique. Et puis le second sur la langue des signes, c'est aussi assez intéressant parce que le public des entendants est toujours très friand en fait de découvrir la langue des signes. Et vous pouvez, voilà, avec sans aucun budget, monter un petit atelier ludique d'apprentissage de quelques signes à partir de cette appli qui s'appelle Signes et qui est basée sur des vidéos. Donc là, si on cliquait sur l'outil quiz, bah vous avez donc une... Marie-Noël a testé pour vous hier. Voilà, il y a une très courte vidéo avec une personne qui fait un signe. Les personnes sont très variées, donc ça c'est important parce qu'il n'y a pas la même gestuelle suivant les personnes qui signent. Et donc vous devez choisir, bien sûr, la bonne réponse. Vous pouvez revoir la vidéo, donc... de fil en aiguille, quand vous en faites par petits bouts, bah, vous finissez quand même par bien assimiler un certain nombre de signes. Et donc, vous téléchargez en fait un certain nombre de dictionnaires un peu spécialisés. Donc, les mots de la nature, les mots du travail, les mots de l'univers des bibliothèques, on pourrait imaginer. Donc, voilà, un petit outil pour peut-être baser un atelier d'initiation à la langue des signes. Alors, dans la catégorie orthophonie ou autisiel, qui est un mot un peu nouveau, qui veut dire un logiciel qui concernerait l'autisme, alors, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Moi, j'essaye de faire un petit peu une veille parce que les éducateurs spécialisés utilisent beaucoup les applications. Ils en font dès maintenant des retours sur Internet, donc on peut lire toutes ces études. Alors, après, notre propos à nous, bibliothécaires, c'est de trier là-dedans ce qui aura une pertinence en bibliothèque, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop spécialisées, trop pédagogiques ou trop à la limite du paramédical. Donc là, ce n'est pas notre propos. Mais il y a parfois des outils vous pouvez utiliser en lien avec vos partenaires. Je ne sais pas, une classe d'IME, un foyer de résidents, un foyer avec des personnes en situation de handicap mental. Donc voilà, deux petits outils. Alors Tapikeo, en fait, c'est une banque d'imagier sonore. Donc, vous téléchargez des grilles d'imagier avec, je sais pas, les légumes, les fruits, les bruits de la ville, voilà. Donc, ça, déjà, ça a un intérêt pour ça. Mais surtout, ça permet de prendre des grilles vierges et de créer vos propres grilles et donc vos mini e-books avec des photographies que vous prenez vous-même et avec un outil son qui vous permet d'associer un son à une image. Donc ça va concerner les problèmes cognitifs, l'autisme, des gens qui ont des difficultés du larynx aussi, j'ai vu que c'était utilisé pour ces publics-là, des gens qui ne peuvent pas verbaliser. Alors ça se présente comme ça, voilà, voilà. Donc ça c'est une grille toute faite, hein, les bruits de la vie, donc quand la personne clique, vous avez le son correspondant, et vous voyez qu'en bas vous avez un outil d'édition, donc c'est avec cet outil que vous pouvez bâtir vos propres grilles. Alors je me suis amusée moi à faire un petit... à imaginer quelque chose qui pourrait être fait pour présenter ce qu'il y a dans une bibliothèque. Donc, je pourrais vous montrer pour ceux qui resteraient après l'atelier. Et donc, voilà, ça montre la diversité de ce qu'on trouve en bibliothèque, des livres avec des CD, des mini-livres, des livres animés, des DVD, etc. Ça peut être un petit livre animé qui soit créé en partenariat avec une classe d'IME, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est un outil vierge et que vous pouvez complètement investir avec un partenaire et à construire avec les enfants. Otimo, donc ça c'est un petit jeu aussi qui va aider des enfants autistes à reconnaître les sentiments, l'expression des sentiments, puisque souvent ça, la grande difficulté pour les enfants autistes, c'est déjà de regarder le visage de l'autre, de comprendre une expression de joie, de bonheur, d'inquiétude, et l'enfant autiste lui-même a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Donc ce petit outil va passer par des images et va l'aider en fait à progresser dans l'expression des émotions, des sentiments. Donc, voilà. Alors là, la catégorie des e-books enfants, Donc je vous en présente deux. Alors la souris qui raconte, j'espère que vous connaissez parce que c'est une excellente ressource de littérature jeunesse numérique. Ce sont des albums jeunesse de qualité qui sont lus par des comédiens. Vous pouvez acheter titre à titre sous le format application, mais une bibliothèque peut aussi s'abonner à la plateforme web et en ce cas, bah, vous donner un accès gratuit à tous les usagers, à l'ensemble des livres. Donc la souris qui raconte, excellente ressource jeunesse donc pour tous les enfants. Et alors l'intérêt, c'est que c'est sonorisé. Donc là, ça va permettre quand même un accès plus facile aussi à des enfants malvoyants, par exemple. Il y a des jeux de couleurs. Enfin, en général, les couleurs sont très contrastées dans les illustrations. Par rapport à la typographie, il y a encore du travail sur l'accessibilité. Moi, j'en ai parlé avec eux. Alors, ils sont sensibles à l'idée d'avancer sur la typographie et d'avoir une police plus accessible. Mais en même temps, c'est chaque illustrateur qui conçoit une typographie spécifique. Vous voyez, c'est complètement intégré dans l'image. Et donc, bah voilà, ils sont pris un peu entre la logique de l'accessibilité et la logique de l'esthétisme. Donc, voilà, je ne sais pas dans quel sens ils vont avancer. Ils sont conscients de la question. Mais en tout cas, ce sont d'excellents livres jeunesse et sonorisés. Donc, intéressant à présenter. Alors, quelque chose de... Peut-être que des bibliothécaires jeunesse qui sont dans la salle vont trouver que c'est un peu moins... de qualité au point de vue de nos critères, nous, de bibliothécaires, mais moi, j'aime beaucoup les applications de Chocolabs de par tous les outils d'accessibilité. Les livres sont vocalisés, les images sont animées, mais pas trop, parce que si c'est trop animé, bah, ça gâche l'intérêt du livre lui-même, et il y a beaucoup de paramètres d'aide à la lecture. Donc, on va voir ça en images. Bon, voilà, bon, là, c'est Zorro, hein, pourquoi pas. Donc, c'est beaucoup des contes du répertoire traditionnel. On n'est pas dans de la création de livres nouveaux. Mais vous voyez, en bas, là, j'ai entouré tous les outils d'accessibilité. Alors, déjà, on peut choisir entre plusieurs polices de caractères. Bien sûr, c'est sonorisé. Et puis, vous pouvez faire ressortir les lettres muettes, insister sur les syllabes liaison. Il y a le petit outil « Explique-moi » qui est indiqué là à l'écran, où là, si l'enfant a cliqué sur « Terre natale », il a une petite fenêtre incrémentale qui vient expliquer le mot. Donc voilà, plein de petits outils au fur et à mesure de la lecture pour aider. Donc pour un enfant... qui a du mal à lire, qui se fatigue vite, un enfant qui a des problèmes de dyslexie, par exemple, je pense que c'est le genre d'application tout à fait intéressante qui va au moins réaiguiser son appétit de lire. Donc après, voilà, la qualité du livre jeunesse, je dirais, elle est un peu plus secondaire. Il faut déjà que les enfants retrouvent le plaisir de lire. Et si c'est avec Zorro ou avec Boucle d'or, bah c'est déjà ça. Alors, dans la catégorie e-books pour ados ou adultes, vous avez Lecture pour tous. Alors on est dans une plateforme qui s'appelle Volume, hein, qui est aussi offerte en abonnement aux bibliothèques, qui permet, c'est une plateforme de livres audio disponible donc soit à l'achat à l'unité, soit en format abonnement pour les bibliothèques. Donc je vous ai mis des indicateurs de prix, hein. Et dans sur cette plateforme Volume, vous avez une appli spécifique qui s'appelle Lecture pour tous, qui correspond exactement à la collection de livres en français facile de l'éditeur Clé International, si vous les connaissez. Alors, les bouquins ne sont pas très attractifs parce que la police est toute petite, les illustrations sont en noir et blanc, donc ils ont voulu quelque chose de pas cher, mais ce n'est pas très attractif. Là, avec l'application, on a du coup quelque chose qui est rendu un petit peu plus sympathique. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le surlignage du texte au fur et à mesure que vous pouvez l'écouter. La seule amélioration, moi, que je verrais, c'est qu'on ne peut pas agrandir la police de caractère, par contre. Donc là, on est dans des livres classiques un peu expurgés, c'est-à-dire racontés dans un vocabulaire de 300-500 mots ou dans des textes qui ont été complètement conçus pour ça. Donc là encore, ça peut sembler... un peu dur de réduire, je ne sais pas, Notre-Dame de Paris à 30 pages, mais c'est déjà pour rentrer dans une culture générale et c'est pour avoir quand même déjà une notion de l'œuvre, puisque de toute façon, il y a plein de gens qui ne liront jamais Notre-Dame de Paris au complet, hein, faut pas rêver. Alors, Le Rosier de Madame Husson, une excellente appli, ben on aimerait bien qu'il y en ait plein comme ça, parce que c'est une nouvelle de Maupassant, version agrandie et version sonore, avec en plus des petits jeux qui sont basées sur l'écoute du texte et donc sur les capacités de mémorisation. Donc là, pour les problèmes de dyslexie, problèmes visuels, les gens aphasiques qui ont la même intelligence et la même envie de lire, mais qui techniquement ne peuvent plus lire du texte noir sur blanc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et la voix du comédien est très plaisante, c'est assez sympathique à lire. Vous pouvez bien sûr paramétrer la taille des caractères. Et puis on est sur une police blanche sur fond sombre, donc un bon niveau de contraste aussi. Voilà, prix spécial du jury Victor Hugo en LSF. Simon, je pense que vous connaissez. Et là, par contre, contrairement au travail que vous faites, le reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas du tout de sous-titres. Donc, c'est vraiment que pour les sourds, quoi. Tout est en langue des signes. Donc là, c'est la présentation en langue des signes de la maison de Victor Hugo, cette maison ayant eu le label Tourisme et Handicap Auditif. Donc là, vraiment, c'est pour les sourds et les malentendants qui signent, hein. Et j'ai pas d'image. Bon, c'est pas très grave. Bon, donc simplement sur chacune des salles de ce musée, vous avez l'explication avec une personne qui vous signe, donc pas en incrustation, mais bien en grand écran. Et c'est quand même important, c'est parce que ça fait vraiment rentrer là dans Victor Hugo. C'est quand même pour les sourds, c'est vraiment la culture générale, quoi. Donc c'est important d'avoir des passerelles comme ça pour rentrer dans un musée, et s'il y avait plus d'applis qui donnaient envie aux sourds d'aller dans les musées, ce serait super. Et donc pour terminer, Navidis, qui est vraiment une application coup de cœur. Alors Navidis, c'est un outil de navigation sur internet spécialement conçu pour les dyslexiques, hein, donc les dys comme on dit. Alors ça permet de personnaliser l'apparence des pages web. Donc, vous avez un choix d'une douzaine de polices, dont la police spécifique dyslexie, dont je vais y reparler dans deux secondes. Vous choisissez l'interlignage, vous choisissez les espacements. Alors, donc pour les problèmes dys, peut-être aussi, il me semble que pour des malvoyants, ça peut être aussi intéressant. Alors voilà, là j'ai pris la page du congrès. Donc voilà, là c'est paramétré, donc vous avez... tout en haut à droite, un petit onglet, vous voyez, avec les A, hein, pour choisir les paramètres de la police. Et donc, voilà, vous desserrez les lignes, vous pouvez espacer les caractères. Et on sait que pour les dyslexiques, l'espacement des caractères est quelque chose de au moins aussi important que de changer le dimensionnement. Alors, la police dyslexie, c'est une police qui a été créée par un graphiste néerlandais, dyslexique lui-même, et qui a refait, en fait, l'alphabet en essayant de plomber un peu les lettres, puisque pour les dyslexiques, le problème, c'est que les lettres flottent un peu dans l'espace. Donc, il les a reformées, redessinées, pour qu'elles se posent plus sur leur base. Et pour les différencier davantage, par exemple, si vous prenez le E et le O, ça se ressemble énormément. Donc, il a travaillé sur le design de chaque lettre pour qu'elle se différencie davantage. Et donc, c'est cette police dyslexie qui est utilisée dans l'outil Navidis. Alors là, on voit aussi sur une plateforme qui, je profite pour présenter, c'est ilétaitunehistoire.com, une excellente plateforme qui va présenter des livres avec un certain nombre d'outils d'accessibilité également. Hein, écouter l'histoire, regarder l'histoire, lire l'histoire avec une aide. Donc déjà, la plateforme elle-même est très intéressante pour pas mal d'enfants. Et là, en plus, si vous l'ouvrez avec l'outil Navidis, vous améliorez encore le confort de lecture. Alors voilà un petit texte qui a été écrit en police 10. Donc là, en même temps, c'est une police qui passe pour tout le monde. Hein. Elle ne vous paraît pas non plus... Enfin, si vous ne vous l'avez pas dit, vous n'auriez pas spécialement peut-être remarqué. Et donc, en France, il n'y a pas encore de livre édité avec cette police. Ça existe aux Pays-Bas, enfin toujours des pays qui sont en avance. Et bon, il y a quelques projets, puisque un des travaux aussi de notre commission handicap, c'est de faire se rencontrer les gens. Et donc là, en faisant se rencontrer ce graphiste néerlandais qui a créé cette police, et puis des éditeurs, on a bien l'impression qu'à l'automne, les premiers livres vont sortir. Donc on est content. Voilà. En conclusion, voilà, je pense que c'est important de faire une veille sur les applis les plus adaptées, mais aussi, ce n'est pas restrictif, hein, il ne faut pas se limiter à ça. Je pense que dans l'ensemble des applis, il y a plein d'autres choses que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser avec ces publics-là, les mémos, les puzzles, les tangrammes, les petits outils de mosaïque, tout ce qui va être basé sur les photos, les voyages. Il y a plein de choses à trouver. Il faut toujours les... regardez ces applis avec l'optique du public précis avec lequel vous allez travailler. Voilà.
Bien, merci Françoise de ce palmarès riche. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de proposer dans vos bibliothèques des applications adaptées, d'en chercher, de nous faire part de vos recherches aussi, puisque la commission handicap, on est un lieu d'échange sur tous ces outils et services qu'on peut proposer aux personnes handicapées. Il nous reste un petit peu de temps pour le débat, donc nos intervenants sont à votre disposition, donc si vous avez des questions, on peut prendre un petit moment pour y répondre. Aucune question? Si.
Il faut passer à la deuxième.
Non. Oui, c'est juste une petite question. Sur les voies de synthèse, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Parce que j'ai eu l'occasion de lire, de faire lire des livres avec les voies de synthèse, quand c'est l'ensemble d'un Jules Verne, par exemple, des voies qui sont très bien pour lire des indications sur un site web. Quand il s'agit de lire tout un livre, c'est insupportable. Est-ce que vous avez d'autres indications que... Bon, là, on en a entendu deux. Hein, je les connaissais toutes les deux. J'ai beaucoup travaillé avec Dragon Read. Hein, et en français, je trouve que deux voix, une d'homme, une de femme. Et l'une un peu, avec un peu plus d'intonation. La voix d'homme est très atone. Est-ce que vous avez, vous, d'autres...
Hélène, Jean-Michel, vous voulez répondre? Tu as un micro devant, Hélène.
Alors, c'est vrai que... Bon, là, on ne s'est pas du tout attaché à parler des synthèses vocales, ce n'était pas notre propos aujourd'hui. On peut faire plein de réglages, des réglages de vitesse notamment. Sur la qualité de la voix, oui, il y a des progrès. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà écouté une synthèse des années 80, mais il y a des progrès. Après, il y a aussi une question d'habitude. Effectivement, on a pas mal de retours de personnes qui nous disent que pour lire des textes courts, des articles de journaux, ça va, et pour lire des romans, non. Mais c'est une question d'expérience personnelle. Moi, par exemple, si je veux lire ce que j'ai besoin de lire en tant que bibliothécaire, j'ai pas le choix et je m'y fais très bien.
Et oui, je parlais pour
la
des
plupart
enfants.
Des enregistrements auxquels on a eu accès en tant que déficient visuel pendant des décennies, c'était des enregistrements faits par des bénévoles. Parce que vous savez très bien la pauvreté de l'offre éditoriale commerciale, eh bien, à choisir entre une synthèse vocale et un lecteur moyen ou un mauvais lecteur humain, j'ai fait mon choix. La synthèse vocale, elle me permet de lire ce que je veux, quasiment, et la synthèse vocale, elle a une certaine neutralité. Dans la bibliothèque dans laquelle je travaille, on a certains lecteurs, des personnes qui deviennent malvoyantes, qui nous disent pour certains romans, je n'ai pas envie d'écouter Isabelle Carré qui me lit quelque chose. J'ai besoin de me faire mes petites voix dans la tête pour lire. Donc pour un documentaire, c'est différent. Après, les expériences sont personnelles. Je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui de réponse unique, même s'il y a peut-être d'autres gens dans la salle qui voudraient compléter avec ce qu'ils sont en train de faire comme expérimentation, comme recherche, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est une question générationnelle aussi. Les enfants, ça ne les gêne pas du tout. Après, qu'on n'ait pas envie de lire tout le temps en voix de synthèse et qu'on ait envie d'alterner, oui. Et moi qui lis beaucoup en voix de synthèse, de temps en temps, effectivement, j'alterne aussi. Soit je change de voix, soit je change et je reprends un peu de voix humaine pour changer de voix de synthèse. Après, pour la question plus technique de quelles sont les voix qu'on utilise, celles qui sont le plus utilisées aujourd'hui, c'est effectivement les voix d'a cappella. Mais il en existe d'autres. Après, ça dépend aussi du coût qu'on y met.
Merci pour cette réponse. D'autres questions? Non.
Oui, pour Signes de Sens, vous n'avez pas travaillé encore avec des bibliothèques qui vous auraient proposé de créer, je ne sais pas, un outil pour une visite de bibliothèque, pour voilà. Et est-ce que vous seriez en mesure de faire ça? Et puis j'ai entendu aussi que vous pourriez faire des formations de bibliothécaire. Est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous vous déplaceriez loin?
En fait, ça fait vraiment très longtemps qu'on fait des choses avec les médiathèques, puisqu'au départ, on mettait en place des activités dans les médiathèques. Avec la médiathécaire, on essayait de voir comment faire venir des gamins sourds, des gamins entendants, ou des gamins sourds qui venaient jamais en médiathèque, des choses comme ça, et des publics adultes. On a aussi travaillé avec des fois des médiathèques de musées, notamment au Quai Branly. Voilà. Et on a fait après des spectacles, puisqu'on a aussi une activité de spectacle vivant, bilingue, de petits contes autour des histoires des livres et tout ça. Et on a fait de la formation à l'accueil de public sourd, c'est-à-dire concrètement comment je me comporte, comment pas heurter, mais comment aussi se sentir à l'aise, etc. Donc c'est des trucs qu'on fait vraiment depuis longtemps. Et là, la nouvelle formation, c'est vraiment sur l'exploitation des supports dans une dynamique d'ouverture. Donc c'est un petit peu différent de la première. On se déplace partout, en fait. On fait beaucoup d'activités, on fait de la veille internationale aussi. Donc on essaye de rencontrer des gens dans d'autres pays. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses hyper intéressantes, etc. Donc se déplacer fait partie du plaisir aussi des projets. Et après, sur la question de créer un outil de médiation, on ne l'a jamais fait. Aussi parce que, d'une certaine façon, on n'a jamais... Je pense que couramment, les gens ne voient pas les bibliothèques comme des espaces de médiation, plutôt de mise à disposition d'outils. Ce qui fait qu'ils ont l'impression qu'un outil qui est d'aide à la visite dans un musée n'aurait pas de rapport avec un outil de médiation dans une bibliothèque. Enfin, moi, je vois bien, les gens, ils ne se projettent pas forcément bien. Mais moi, je reste assez convaincu que si on revient à la fonction première des objets culturels, qui sont mis à disposition, c'est-à-dire créer les liens, créer de l'expérience, etc., pour moi, c'est à peu près la même chose. Si on considère que les livres sont des objets d'art, d'une certaine façon, on en revient à la même fonction qu'un musée, de faire circuler à travers un réseau d'expériences. Donc pour moi, c'est à peu près... pour moi, c'est complètement en phase. Après, c'est plus une question de projet, ouais, c'est-à-dire on est assez ouvert. Et comme je disais, une fois qu'on trouve le bon projet, après, il faut voir l'ingénierie qu'il y a derrière.
Merci, ça fait des projets à envisager. Vous allez faire beaucoup de déplacements, Simon. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, de toute façon, oui.
Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est pour vous informer, au moins pour les Lyonnais, d'une journée qui va se passer, une journée d'études qui va se passer à l'ENSIB sur bibliothèque et handicap, accessibilité et innovation à l'horizon 2015. Ça se passe le lundi 17 juin à partir de 9h30 à l'amphithéâtre de l'ENSIB. Voilà. Donc, c'est une journée libre et l'entrée est gratuite. Donc, profitez-en, en tout cas, au moins pour ceux qui sont sur Lyon. Merci beaucoup.
Merci pour cette information. Vous y retrouverez certains de nos membres. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que comme la salle n'est pas prise, si vous voulez demander aux intervenants... vous remontrer, de vous refaire une démonstration du Millstone, ou pour peut-être, François, je m'avance un peu, mais faire peut-être remontrer quelques applications, vous pouvez les solliciter. Je remercie vraiment chaleureusement nos intervenants qui... qui nous ont permis d'aborder cette question importante des outils numériques, et vous dire que vous pouvez retrouver tous les PowerPoints sur la page web de notre commission handicap sur le site de l'ABF, que j'espère vous fréquenter souvent. Merci et à bientôt.